BW. Magazine Santé.
Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine se tient à Berlin, la capitale allemande, le congrès de l'Association européenne des soins palliatifs. Le docteur Christian Tizimira y participe. Ce médecin a été l'un des artisans de l'instauration d'un système de soins palliatifs au Rwanda. Il nous a accordé une interview. Et puis nous parlerons aussi des solutions envisagées par les pays d'Afrique de l'Ouest pour améliorer l'accès aux soins de santé pour leur population. C'est Constance Fischer au micro. Soyez les bienvenus à l'écoute de ce magazine. Selon l'Organisation mondiale de la santé, seuls 14% des personnes ayant besoin de soins palliatifs dans le monde en bénéficient. Sujet de débats souvent passionnés, ces soins particuliers visent à soulager les douleurs physiques et psychologiques d'un patient en phase de fin de vie. Il existe de nombreuses définitions officielles des soins palliatifs. Le docteur Christian Tizimara nous livre la sienne et nous explique comment il en est venu à se tourner vers cette spécialité médicale.
Donc, quand on parle de soins palliatifs, on parle d'une prise en charge de personnes qui ont des maladies incurables, pas simplement du point de vue médical, mais beaucoup une approche holistique, c'est-à-dire sociale, psychologique et même spirituelle, afin de permettre à ces personnes de vivre jusqu'à la fin de leur vie une vie digne et avec un sens beaucoup plus humain que d'être délaissé par rapport au diagnostic.
Est-ce que c'est indiscret de vous demander comment vous en êtes arrivé à vous spécialiser dans les soins palliatifs?
C'est pas indiscret parce que j'utilise souvent mon témoignage pour permettre à mes collègues, mais aussi à certaines personnes, de pouvoir un peu comprendre le sens le plus profond, pas simplement sur la définition de soins palliatifs, mais surtout de quelle façon il faut la donner. Mon expérience a été un peu douloureuse parce que je me rappelle, c'était à l'hôpital Kibagabaga, l'un des hôpitaux des districts que nous avons dans la ville de Kigali. Et à ce moment-là, j'ai rencontré un jeune, il avait 24 ans. Et ce qui m'a beaucoup plus attiré, c'était l'expression de la douleur qui vraiment émanait de cette souffrance, non pas simplement du patient, mais aussi de toute la famille. Il y a la famille qui est venue vers moi et qui m'a demandé « Est-ce que tu peux donner quelque chose ?» pour qu'il arrête de crier et qu'il puisse s'endormir et ne plus se réveiller. Et quand je suis rentré, je me suis posé la question, je me suis dit, à quoi ça sert d'avoir fini la faculté de médecine si on n'arrive pas à soulager, au moins pour ces patients qui sont en fin de vie? Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui manquait, qu'il fallait vraiment s'occuper de ces personnes. Et voilà, c'était vraiment quelque chose de peu douloureux de voir ces familles souffrir. Et le plus difficile, c'était de voir sa maman venir et s'agenouiller. Le fait qu'elle s'est mise à genoux, pour moi, c'était un échec d'abord culturel, parce que dans la société rwandaise, c'est pas aux personnes âgées de s'agenouiller. Pour moi, j'ai trouvé aussi qu'il y avait quelque chose qui manquait dans le sens humanitaire. Ça m'a un peu changé complètement la façon de voir la prise en charge du patient en soins, mais aussi de la famille.
À l'époque, les soins palliatifs, ce n'était pas quelque chose de très connu, non seulement au Rwanda, mais ailleurs aussi en Afrique.
En Afrique, il y avait une expérience qui avait déjà commencé en Ouganda. Et à l'époque, au Rwanda, on n'avait pas encore, de politique de soins palliatifs. Mais on avait pu, par le ministère de la Santé, avoir une formation sur l'introduction des soins palliatifs, comment ça se fait les soins palliatifs. Et c'est à ce moment-là que j'ai complètement décidé de travailler dans les soins palliatifs et d'amener quelque chose de nouveau. Et c'était vraiment très important pour moi, non simplement vis-à-vis de ces garçons qui est mort le lendemain, malheureusement, en très forte douleur. Et c'était qui était vraiment insupportable. Et je me rappelle encore, quand je suis venu le matin, il y avait toute la famille qui amenait le corps à la mort et tous me regardaient. Pour moi, à travers ces regards, c'était pour dire « tu aurais mieux fait ». C'est pourquoi je me suis dit « voilà, c'est une opportunité de pouvoir faire quelque chose ». Le ministère de la Santé a pu développer une politique nationale de soins palliatifs, un plan stratégique, un plan de pouvoir aussi permettre que la politique puisse être décentralisée au niveau des centres de santé, mais aussi au niveau de la communauté, ce qui était vraiment une très, très grande opportunité.
Comment est perçue la douleur d'un patient? Est-ce qu'il a été difficile pour vous de faire passer cette idée qu'on peut soulager la douleur d'un patient même s'il a une maladie incurable?
Non, ce n'était pas difficile parce que je pense que tous les médecins, les personnels soignants voient non simplement la douleur physique, mais aussi la souffrance de patients et aussi de leur famille. Il y avait un obstacle à l'époque, c'est que la prescription de la morphine était vraiment très difficile. Donc, il a fallu d'abord changer cette mentalité, de pouvoir dire il est important de pouvoir soigner la douleur, de pouvoir aussi aider les patients et la famille. Et je pense qu'avec les formations qui ont été données à l'époque, a permis vraiment un changement de mentalité au Rwanda. Et aujourd'hui, l'accès à la morphine, il y a eu un grand changement. Et c'est ce qui a vraiment amené aux patients aussi, mais aussi au personnel soignant, d'avoir un peu cette énergie de pouvoir discuter facilement un peu sur le champ palliatif.
Merci au docteur Christian Ntizimira, que nous retrouverons la semaine prochaine pour la seconde partie de cette interview sur les soins palliatifs.
Téléchargez notre application dw.com/appli.
Vous écoutez la Deutsche Welle, c'est le magazine Santé. Vous venez de l'entendre, si le Rwanda a pu faire un grand pas en matière de soins palliatifs, c'est notamment parce que l'accès à la morphine a été simplifié, tout en étant bien sûr encadré. Mettre en place des systèmes de santé transparents et efficaces dans le but de soulager la douleur de tous les patients, quels que soient leurs moyens, constitue sans doute l'un des plus grands défis sanitaires pour les États africains. Les pays de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, se sont récemment réunis à ce sujet au Bénin. Qu'est-il sorti de ces débats? On fait le point avec notre correspondante à Cotonou, Claire Stéphane Sacramento.
Ebola, Lassa, choléra, rougeole, nombre de pays africains sont fréquemment frappés par des crises sanitaires. Ces épidémies, la plupart du temps, se soldent par des bilans catastrophiques en termes de vies humaines. Tous ces problèmes trouvent leur source dans la faiblesse des systèmes sanitaires, estime Adrien Onsa, gestionnaire des hôpitaux à la retraite.
Aujourd'hui, le système sanitaire peut faire l'objet d'une crainte parce que ce n'est plus nécessairement celui qui a une référence, une bonne compétence qui soigne dans les hôpitaux aujourd'hui. Et l'équipement des hôpitaux ne fait plus une priorité pour ceux qui gouvernent le système aujourd'hui. Et la question d'infrastructure, la question de compétences, ne préoccupe plus ceux qui ont le gouvernail des pays en Afrique au sud du Sahara. Même s'il y a erreur et faute professionnelle, il n'y a pas un système de répression ou ne serait-ce que pour inquiéter celui qui a fait la faute. N'existe pas, les verrous sont sautés. Donc si tu vas et que tu as la chance, tu vis et tu rentres chez toi, mais le droit de malade est bafoué. Aujourd'hui, si les malades ont plus peur d'aller à l'hôpital, il y a plus de gens qui meurent parce qu'ils sont allés à l'hôpital que s'ils étaient restés chez eux. Parce qu'à l'hôpital, depuis l'accueil, vous êtes déçus. À l'hôpital, depuis les installations qui vous permettent de vous mettre dans un certain confort, ne vous plaisent pas. Et là, on est découragé.
Les pays de la CEDEAO ont, semble-t-il, pris conscience de la portée du problème et décidé de coordonner davantage leurs actions. Pour renforcer la santé des populations africaines, les décideurs pensent qu'il est incontournable de promouvoir la couverture universelle de santé afin de permettre un accès pour tous aux soins. Dr Djibo Garba est expert en santé pour le Niger.
Absolument, si on veut améliorer la santé de la population, ça veut dire qu'il ne faut laisser personne pour compte. Donc il faut avoir une couverture maximum des soins essentiels. Et il faut lever les barrières financières qui freinent l'utilisation de ces services. Beaucoup de nos États, quand vous regardez, le paiement direct des ménages au niveau des soins de santé, ça va en s'agrandissant. Par exemple, quand vous prenez le Niger, le paiement direct de nos populations par rapport aux services de santé, c'est environ 47% de financement de santé directement par les ménages. Maintenant, quand vous le prenez, maintenant le paiement direct, quand on accède aux services de santé, ça fait 97%. Donc moins de 3% de notre population a une certaine couverture de risque maladie.
Lors de leur 20e réunion annuelle qui s'est tenue récemment à Cotonou, les ministres de la Santé de la CEDEAO se sont appesantis sur ces problèmes cruciaux qui plombent le développement de la sous-région. Il a été beaucoup question des différentes façons de redorer le blason du secteur sanitaire. Le docteur Stanley Okolo est le directeur de l'Organisation ouest-africaine de la santé.
La couverture universelle est extrêmement importante. Pour y arriver, il y a des étapes cruciales, dont l'assurance que les médicaments que nous achetons sont de bonne qualité, accessibles et de prix abordables. Le début de la fabrication des produits pharmaceutiques dans la sous-région, il est aussi question du financement de la santé. C'est important que nous essayons d'introduire la bonne gouvernance, le leadership dans nos systèmes de santé. Nous devons mettre aussi en relief les bonnes pratiques qui garantissent que le budget alloué au secteur de la santé contribue à répondre aux besoins des populations.
Des résolutions fortes qui réclament une volonté de faire de la part des décideurs et des personnels de santé pour se traduire en action. Docteur Ibrahima Seck, spécialiste en santé publique et conseiller du président sénégalais, insiste sur l'importance de la conscience professionnelle.
Si on essaie de faire une introspection, de respecter les standards, les normes et d'adhérer aux principes, de faire l'effort d'avoir un bon système d'information, mais aussi d'avoir du personnel qualifié, n'est-ce pas, capable de mettre en œuvre correctement, je suis persuadé que ça pourra changer les choses dans un délai plus rapide qu'on ne le pense.
Pour atteindre l'objectif 3 des objectifs de développement durable, axés sur la bonne santé et le bien-être, les décideurs devront traduire en actes toutes ces mesures, donner les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges est essentiel pour le développement durable. Claire Stéphane Sacramento à Cotonou pour la Deutsche Welle.
Le magazine Santé, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Et avant, sur notre site internet dw.com/français/médiathèque, restez en bonne santé et à l'écoute de la DW.